les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le théâtre ne peut pas être l'instrument d'une idéologie, parce qu'alors il ne fait que répéter l'idéologie. En 1975, dans les 5e et 6e volets d'une série de 12 entretiens, Eugène Ionesco expliquait les raisons de sa critique à l'égard du théâtre de Bertolt Brecht, racontait ses démêlés avec une partie de la critique française et évoquait plus généralement son rapport à la tradition théâtrale. L'homme n'était pas tendre, mais savait aussi dire ses admirations et se livrait ainsi à un éloge inattendu de Mère Courage qu'il comparait au Richard II de Shakespeare. Entretien avec Eugène Ionesco par Claudine Chaunaise, 5e et 6e volet, diffusé pour la première fois sur France Culture les 21 et 22 mars 1975.
Je voudrais dire quelques mots sur la forme de vos nouvelles pièces qui font que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qu'à mon avis, il y a une certaine continuité, il n'y a pas rupture, comme certains l'ont dit, parce que d'abord les thèmes sont restés en effet les mêmes, mais il y a une évolution assez considérable dans la façon d'exprimer ces thèmes. Alors, je voulais dire que dans les premières pièces, le personnage se contentait d'exister ou de ne pas exister. Enfin,
il n'avait pas conscience voilà, qu'il existait ou qu'il n'existait pas.
Non, mais tandis que je veux dire que vos nouveaux personnages sont, je crois d'ailleurs que vous ne récusez pas le terme, sont carrément symboliques. Monsieur Smith était le symbole de l'inanité de la vie, d'accord. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Dans les pièces depuis le rhinocéros, le personnage symbolise clairement quelque chose. L'oppression du totalitarisme dans le rhinocéros. Vous voyez ce que je veux dire.
Vous voulez dire que mes personnages incarnent des idées.
Oui, voilà, si vous voulez, voilà. Oui. J'aime pas beaucoup idées. Le mot idée parce qu'il y a trop de chair et de sang.
Et justement, cela, c'est la chair et le sang, voilà. Le théâtre. L'art et la littérature appartiennent au monde de l'affectivité.
Mais bien entendu.
Donc,
disons, votre pensée, au sens le plus charnel du terme, votre pensée est exprimée par des symboles très nets dans les pièces plus récentes.
Mais je crois que c'est la même chose pour les premières pièces. C'est-à-dire que les personnages de Quentin Chauve, de la leçon, etc., sont des types et non pas des personnages. Je ne crois pas qu'ils aient une psychologie.
Non, sûrement.
Mes personnages n'ont pas de psychologie. Et c'est cela qui fait qu'ils ressemblent aux personnages des premières pièces.
Oui. Et il y a aussi une autre différence, c'est le lyrisme. La révolte qui demeure essentielle, la révolte contre l'inanité de la vie, etc., etc., était toute neutre. Elle ne s'exprimait pas, n'est-ce pas, dans les premières pièces.
C'était plus implicite et moins, et pas du tout explicite.
Et votre vous trouvez que théâtre est devenu lyrique.
Et le théâtre est devenu, ou explicite.
Je dirais lyrique, parce qu'il y a vraiment des couplets qui sont lyriques, au bon sens du terme, ça n'a rien de péjoratif, mais Béranger, de temps en temps, il prend son temps, et puis en 10 ou 12 lignes, il dit ce qu'il a sur le cœur. Mais d'une façon lyrique, d'une façon nette. Tandis que les autres disaient rien, ils se contentaient de faire des gestes absurdes.
Oui. Ils se contentaient de parler sans parler, un langage inaccessible.
De tirer un cadavre dont tout le monde comprenait ce que voulait dire, mais il tirait le cadavre. C'est tout dans Amédée ou s'en débarrasser. Tandis que maintenant, le personnage dit tout de même « Je tire le cadavre parce que... »
Oui, c'est peut-être un tort.
C'est affaire du public d'en juger. L'immense succès mérité d'ailleurs de vos pièces prouve que ça n'a pas du tout déplu au public. Peut-être, peut-être certains esprits plus subtils peuvent peut-être préférer la part inexprimée que vous laissiez à ce public, disons, d'élite. Vous lui laissiez la possibilité de chercher, de deviner, de rêver sur votre texte volontairement très neutre et arrêté, si je peux dire. Maintenant, il va jusqu'au bout. Il y a moins peut-être de prolongement intérieur dans l'esprit.
Je comprends. Et pourtant, même mes dernières pièces, malgré un langage plus clair et plus normal, malgré cela, il arrive aux gens très souvent de ne pas comprendre ce que j'écris.
Ah oui, ça c'est vrai.
Par exemple, le rhinocéros, qu'est-ce que c'est ? Bah, ce sont les nazis, on a dit. Bah, ce sont les communistes, bah, ce sont les péronistes, on a dit ça en Argentine, après la première, après la chute de Perón, etc. Et ils ne se sont pas aperçus qu'il s'agissait là de la description phénoménologique, si je puis dire, du phénomène de la contagion.
Oui. Oui, ce que vous appelez, par un terme qui n'est pas très joli, mais je pense que vous en êtes conscient, vous faites exprès, la massification.
Ou la massification. Ils n'ont pas compris. Et les gens vivent de clichés, de slogans, maintenant on parle des masses médias qui les conditionnent, etc. Mais je ne crois pas que une pièce comme Rhinocéros a pu les faire changer. C'est-à-dire que ce sont toujours les autres qui sont des rhinocéros et ce n'est jamais le spectateur, ce n'est jamais le public. Donc cette pièce aurait dû s'appeler La Contagion. Et puis dans Le Piéton de l'air, par exemple, j'avais fait une pièce en un sens politique.
Oui.
Parce que je parlais de ce qui se passait, hein, des tueries massives d'enfants, du collectivisme, d'un tas de choses. Et on a dit que c'était une pièce où je racontais encore ma vie, alors que le personnage Béranger n'était que le pivot de cette architecture, qui est une pièce de théâtre.
Oui.
Dans cette pièce-là, comme je vous le disais, je parlais de faits précis. À ce moment-là, on racontait l'histoire de ce garçon de 17 ans qui avait voulu escalader le mur de Berlin et qui avait été tué. On parlait d'enfants qui étaient tués en Afrique du Nord, aussi bien par les uns que par les autres. Enfin, puis je parlais de, comme je vous le disais, de phénomènes de totalitarisme.
Oui.
Et encore de cette contagion qui fait que les gens marchent, qu'il y a des troupeaux de gens guidés par des monstres. Parce que tous les chefs d'État sont dans un sens monstrueux.
Dans vos pièces qu'on peut dire proprement théâtre de l'absurde, précisément, ce n'était pas précisé. Les gens étaient malheureux, étaient idiots, étaient aliénés. On devinait, on comprenait, mais on ne savait pas pourquoi. Justement, il n'y avait aucune relation précise avec les faits de la société actuelle
C'est parce qu'on n'a pas très bien compris. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit d'une façon plus claire.
Ah bon, voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire, je prends n'importe quoi, que victime du devoir, n'est-ce pas, par exemple, où le gars s'enfonce dans les profondeurs, n'arrivant pas à trouver le fond de lui-même. Ça peut être, on y a vu à moitié, à mon avis, mais enfin en partie une critique de la psychanalyse. Mais en tout cas, ce n'est pas le type qui dégringole dans le fond du mur de Berlin. Voilà ce que je veux dire. Il y avait des allusions beaucoup moins précises à la réalité.
Mais cependant, le policier, c'est bien le tortionnaire.
C'est vrai. Et c'est déjà les policiers du rhinocéros qui obligent tout le monde à devenir rhinocéros. C'est vrai. C'est déjà la soumission au milieu. Il y a une évolution. Mais enfin, il y a une évolution très nette. Et cette évolution se poursuit même dans la mise en scène. Vous me disiez que vous aviez pu monter la cantatrice chauve, enfin, je suppose, avec des moyens extrêmement réduits. Eh ben, le piéton de l'air, il faut Jean-Louis Barrault et toute une machinerie extraordinaire pour monter cette espèce de grand truc comme on faisait au XVIIe siècle. Yeah. Mais je ne vous le reproche pas.
C'est une évolution.
Jeu de massacre aussi. Oui. Il y a un jeu de scène extrêmement complexe, toute une ville qui apparaît à l'horizon et qui doit être manifestée par les décors.
Oui, oui, mais tout cela, c'est simplement parce que, après des petits théâtres, j'ai pu avoir de grands théâtres.
Ah voilà, je n'avais pas pensé à ça.
Et c'est une raison très simple. De tout le temps, j'aurais bien voulu avoir beaucoup de comédiens, des changements de décors nombreux. une mise en scène spectaculaire, et je n'ai pu la voir qu'à partir du moment où on a joué mes pièces dans les théâtres subventionnés. Seulement, maintenant, je suis fatigué de cela. C'est une expérience qu'on a faite. Et maintenant, je voudrais retourner à des pièces ayant du texte et très peu de personnages. Ce qui me semble important maintenant, c'est de revenir au texte.
Oui, et des pièces plus intérieures.
Et de pièces plus intérieures, parce que, avec les planchons, avec les maréchals, avec d'autres, n'est-ce pas, je crois qu'on est venu à la fin, qu'on a épuisé l'expérience du théâtre trop spectaculaire.
Est-ce que vous écrivez vite vos pièces ou est-ce que vous peinez beaucoup dessus?
Beaucoup avant et pas du tout quand ça commence. Vous savez, on me reproche beaucoup cette deuxième partie de mon activité.
Oui.
Mais puisqu'il faut se référer aux grands exemples, Picasso lui-même a eu plusieurs styles, plusieurs étapes.
Bien sûr.
Et il est, à un moment donné, on disait même qu'il était classique ou classiciste. Mais je crois que les raisons pour lesquels on a dit du mal de mes pièces à partir de Tueur sans gage, je crois que la véritable raison est autre. Le Tueur sans gage, j'écrivais un théâtre à message qui n'était pas le théâtre à message que voulaient des gens comme Barthes, comme Dort, etc.
Oui, non, mais je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que vous venez d'expliquer fort bien que le message était très universel. Et le Clésio a écrit La soif et la faim, que c'était un théâtre sacré, sacrificiel, qu'il y avait vraiment une victime, presque au sens religieux du mot. Pourquoi pas, je l'admets très bien dans La soif et la faim.
Mais je vous assure que l'attitude de certains critiques vis-à-vis de moi est due à cela. Je n'ai pas écrit un théâtre brechtien. Je n'écrivais pas un théâtre lié à une idéologie qu'ils veulent propager.
Oui.
En 55-56, il a paru dans l'Express un grand papier de Dort, un papier où il s'occupait de moi et d'Adamov. Et il disait, ce que ces écrivains-là ont fait, c'est très très bien, c'est intéressant, ils ont fait la critique négative de la société. Mais maintenant, il faut qu'ils fassent quelque chose de positif. Et ce positif, c'était évidemment la brechtianité et le marxisme.
Ils vous ont reproché de ne pas devenir un écrivain, si on peut dire, social, qui propose des modèles,
c'est cela,
à une société future.
Oui, parce que
rester négatif.
Dernièrement, il y a un critique qui a dit que, après avoir vu Jeu de massacre, que c'était une pièce mauvaise parce qu'on y parlait de la mort. Et parler de la mort, c'est être anti-révolutionnaire. Et ainsi de suite. C'est pour vous dire, pour vous expliquer un peu comment certains critiques m'ont rejeté. J'ai fait autre chose, mais cette autre chose, ce n'était pas ce qu'ils voulaient.
Il faut que vous serviez et vous refusez de servir.
Alors, oui, c'est ça. Alors, je l'ai dit souvent, l'art ne peut pas être... Le théâtre, plus précisément, ne peut pas être l'instrument d'une idéologie, parce qu'à ce moment-là, il ne ferait que répéter l'idéologie. Quand on écrit, eh bien, on remet le monde en question. Et cette remise en question du monde, c'est encore une interrogation. C'est-à-dire que le théâtre doit avoir un système d'expression autonome. Cela veut dire que l'expression théâtrale se suffit à elle-même, et cela veut dire que les idéologies doivent être abandonnées au moins au moment où l'on commence à écrire. Parce qu'on se repose à chaque fois le même problème, par exemple le problème fondamental, le malaise existentiel, etc. Et c'est ainsi que le théâtre peut apporter du nouveau. Si on répète quelque chose, je pense, on répète, comme l'a fait Brecht, si on répète ce qu'a déjà dit une idéologie, alors ce n'est pas la peine de faire du théâtre, sauf si on a une vocation pédagogique.
C'était le cinquième volet d'une série d'entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chaunaise et diffusée pour la première fois le 21 mars 1975. Tout de suite, le sixième moment de cette rencontre.
Vous êtes contre le théâtre didactique. Je crois que tous les gens qui aiment le théâtre et tous les bons esprits diraient comme vous. Il s'agit de savoir ce qui est didactique ou pas, n'est-ce pas? Et pour rester dans les auteurs anciens, je me demande pourquoi vous avez été si presque brutal avec eux. Ou ils sont didactiques, ou alors ils ne valent rien du tout. Enfin, sauf Shakespeare. On dirait quelquefois, quand vous allez un peu fort, mais je connais votre tempérament bouillant, qu'il n'y a que Shakespeare et Ionesco. Parce que vous avez été d'une vacherie incroyable. Alors, je lis les choses que vous-même avez écrites, n'est-ce pas ? Que Musset, c'est vraiment très mince. Victor Hugo fait rire tellement il est ridicule. Ibsen, c'est la lourdeur même. Cocteau est factice. Molière, vous ne l'aimez pas du tout, il ne vous a jamais fait rire. Giraudoux, enfin, personne. Sartre est sot et inhumain. Enfin, vraiment, tout le monde en prend pour son grade. Alors, vous ne pouvez pas dire, pour prendre par exemple les exemples de Cocteau et de Giraudoux, qu'ils aient été didactiques.
Tout n'est pas sérieux là-dedans.
Ce sont quelquefois des boutades.
Oui, quelquefois ce sont des boutades, quelquefois ce ne sont pas des boutades.
Oui.
Mais la plupart du temps, ce sont des boutades.
Oui.
Mais je dois dire aussi une chose.
Oui.
Que le théâtre est ce qui dépérit le plus vite. Combien d'auteurs dramatiques avons-nous depuis le XVIIe siècle?
Oui, c'est très juste, oui.
Des auteurs qui peuvent encore s'entendre et écouter. Oui. Il y a Racine, Bandré et Corneille, il y a Beaumarchais, il y a Marivaux, et à la fin du siècle dernier, il y a eu l'apparition de Claudel et Duburoy,
oui.
Etc.
Oui.
C'est vrai, finalement, ce que j'ai dit. Mais moi aussi, naturellement, je considère que je suis à la suite de ces grands précurseurs et que je vais tomber dans la trappe ubuesque comme eux.
Vous ne serez pas décervelé tout de suite, en tout cas, ça m'étonnerait. Bon, eh bien, je voudrais que vous me disiez un petit mot sur votre grand ennemi. J'ai nommé Monsieur Bertolt Brecht, que vous ridiculisez sous la forme d'un clown qui s'appelle Brechtol, dans La soif et la faim. Et puis enfin, quand vous parlez de brechtologie, ça va mal. Tout le monde est d'accord contre le didactisme. On pourrait vous reprocher de ne pas avoir compris que chez Brecht, il y a le didactisme, il a lui-même intitulé certaines de ses pièces didactiques, mais qu'il y a tout de même tout autre chose.
Il y a certainement autre chose, mais malgré lui. Mais pour vous dire à quel point les idées comptent peu dans le théâtre, je voudrais vous rappeler l'exemple de Pirandello. Ce qui étonnait les gens vers 1925, je crois, et puis ça a duré assez longtemps, c'est en 1935, ce qui étonnait chez Pirandello, c'était ses idées. Ses idées, il avait des théories, nous sommes plusieurs en un seul personnage, etc. Bon, eh bien, ses idées psychologiques ont été largement dépassés. Il y a eu la psychanalyse, psychologie de profondeur, etc. Sa conception psychologique est dépassée. Pourtant, on va voir Pirandello. Et on va le voir avec plaisir. Et il nous touche. C'est parce que il n'y avait pas que des idées là-dedans. Il y avait autre chose. Un monde vivant, des gens qui s'agitaient, qui souffraient, etc. Devant nous. Pour Brecht, c'est la même chose quand il a des pièces réussies. J'ai déjà dit, peut-être, et je m'excuse de le répéter, que Mère Courage, ce n'est pas une critique de la guerre, de la misère des gens au Moyen-Âge, etc. Mais en réalité, c'est une pièce sur le temps et sur la mort. C'est cela. Et c'est cela qui fait que cette pièce est comparable à Richard II de Shakespeare, où il s'agit apparemment de politique, de lutte pour le pouvoir, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de fondamental là-dedans et qui nous tient toujours? C'est la mort de Richard II. Donc, Brecht est valable dans la mesure où, voulant faire de la propagande, il a échappé à la propagande.
Oui, mais ça, je crois qu'il en était conscient de son pouvoir personnel. On peut trouver que c'est un excellent dramaturge.
Oui, bien sûr. Nous verrons ce que le temps fera de lui.
Il y a une chose que j'ai lue récemment sous votre plume et qui m'a beaucoup étonnée. C'est un éloge tout à fait extraordinaire, et combien dans votre bouche, d'Adamoff. Vous passiez pour être des ennemis intimes. Enfin, le bruit courait que vous vous détestiez tous les deux. Et tout d'un coup, je lis Adamoff, qui est probablement le plus grand auteur dramatique des années 50. Et en plus, s'il y en a un qui a eu des thèmes didactiques et de propagande, c'est Adamoff qui était communiste. Ce que vous n'êtes pas, il s'en fout de beaucoup. Alors, je n'ai pas compris, je voudrais que vous m'expliquiez.
On en dit des choses, vous savez.
Qui ont Eugène Ionesco.
Moi et tout le monde, on en dit.
Oh, ça, pour vous contredire, vous avez, je crois, la palme.
Et
si on
joue.
Voulait faire un recueil de choses que vous avez dites ou écrites officiellement, on trouverait des contradictions extraordinaires. Et pourtant, vous avez une étonnante continuité.
On joue.
Oui.
Avec les mots.
Oui, alors.
Alors maintenant.
C'est parce qu'il est mort.
Ce jeu n'est plus implicite, puisque je dois l'expliciter.
Oui.
On écrit très souvent sur un auteur parce qu'on aime cet auteur, et on en dit du bien. Mais souvent, on en dit du bien pour taper dans un autre. C'est-à-dire, s'il me semble qu'un auteur français est très grand, très important, on peut dire, non, c'est pas lui, c'est Adamoff qui était plus grand. C'est pas la peine de mettre des noms là-dessus,
oui.
Vous comprenez.
Oui, on devine l'énigme.
Bon, d'autre part, j'ai aimé Adamoff dans la période 50, 51, 52, où il n'était pas communiste.
D'abord, il avait aimé les chaises ou vos premières pièces beaucoup.
Oui,
il était un ardent défenseur de votre.
Oui.
C'était au temps où lui-même écrivait les grandes manœuvres ou les petites manœuvres.
Alors là, il était
du théâtre de l'absurde aussi.
Oui, absurde et anarchiste.
Oui, c'est exact.
Il était un anarchiste. Et puis, il avait écrit des pièces, le ping-pong.
Ah oui, Paolo Paoli.
Paolo Paoli. Il avait écrit La Grande et la Petite Manœuvre. Il avait écrit Le Professeur Taran, qui n'était pas du tout des pièces soumises à des idéologies, mais qui provenaient du fond de lui-même, de ses rêves, c'est-à-dire de ce monde inconscient qui devrait être le seul à fournir de la matière aux écrivains. Parce que ces réalités inconscientes sont beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que ce que l'on dit consciemment. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on écrit des œuvres, des pièces de théâtre. On met l'idéologie de côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, en écrivant, on peut se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Je ne me suis jamais intéressé, même en lisant des idéologues, à ce que ces idéologues pensaient. Fussent des grands philosophes, Marx, par exemple. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient. Pourquoi disaient-ils cela? Qu'est-ce qui les faisait du plus profond d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui les faisait dire cela? Donc, Adamov a fait plus tard un peu d'idéologie, mais le début était très bon. Cette pièce-là, le ping-pong, c'était une pièce sur l'évanescence, le monde qui fiche le camp, enfin, cette dislocation du réel, etc. Et l'évanescence est aussi un des thèmes qui me hante.
Oui.
Après, Goldman lui a expliqué qu'il avait écrit en somme une pièce marxiste, ce qui n'était pas vrai, mais Adamov, qui à ce moment-là s'est retourné vers les communistes, il a accepté cette interprétation. Mais ce qu'il a fait de bon et de tendre, si l'été revenait, il a mis toute la tendresse et toute la nostalgie qui était en lui. C'était une pièce tendre. C'était une pièce triste. C'était une pièce douloureuse et vraie. Et d'autant plus douloureuse qu'elle était écrite avec maladresse. Eh bien, tout le monde est passé à côté. Tout le monde. C'est-à-dire 5 ou 6, une bande de critiques qui décident comme ça du sort de la littérature. Ça,
vous n'aimez pas beaucoup les critiques. Vous les avez terriblement échaudés.
Pas tous. Oh, eux aussi.
L'impromptu de l'Allemagne.
Mais eux aussi. On les quitte. Alors, on ne s'est plus occupé d'Adamov, justement parce que cette pièce était bonne et parce qu'elle était tendre et parce qu'elle était vrai. Maintenant, il faut faire des pièces atroces, vengeresses, etc. Et le côté tendresse et bonté disparaît de plus en plus. Brecht, d'ailleurs, a dit il ne faut pas avoir la tentation de la bonté. Et puis, quand ils ont décidé qu'un auteur n'était plus dans le coup, ils ne s'en occupent plus. Et alors, c'est ça qui est affreux, parce qu'il peut y mettre là-dedans tout son cœur, tout ce qu'il y a de meilleur en lui. Il essaye de parler aux gens et pas du tout, ça ne marche pas. Ce qui est encore embêtant, c'est que lorsqu'on juge de la qualité d'une pièce de théâtre, on dit elle est bonne, elle n'est pas bonne. Il y a des répétitions, il y a des longueurs. On dit beaucoup maintenant qu'il y a des longueurs. Avant, les gens écoutaient les textes, ils ont perdu l'habitude d'écouter. Mais on ne s'intéresse jamais à la réalité, à la vérité du témoignage, au cri de l'auteur ou de l'artiste. Malraux lui-même a dit que toute l'histoire de l'art, c'est un cri de l'homme vers le ciel, vide ou non. Et je crois, comme lui, que finalement il ne peut pas y avoir de théâtre sans métaphysique. Et c'est parce qu'il y a un théâtre sans métaphysique qu'il n'y a pas de bons auteurs. C'est pour ça que, obnubilés comme nous sommes, détruits par la politique, nous ne nous reconnaissons plus à travers les autres.
C'était les 5e et 6e volets d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonnaz et diffusée pour la première fois sur France Culture les 21 et 22 mars 1975. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.